D'abord, merci de votre intervention parce que dans notre bassin, on a un petit collectif de travail qui travaille sur une liaison bac pro lycée, bac pro BTS, pardon, depuis 3 ans et qui est un peu active. Et là, vous nous avez donné plein de pistes dans votre exposé où on aura certainement une ambition plus modérée que la vôtre, mais je pense que je voulais savoir s'il y avait des droits d'auteur à payer. Si on s'inspire de vos travaux et de ce que vous avez mis en
Il est
place,
content.
parce que voilà, c'est très très intéressant pour nous. Juste une question, une précision dont j'ai besoin, c'est l'article. Vous nous avez dit qu'en première année, vous les isoliez, vos jeunes, mais qu'est-ce qui se passe sur la deuxième année?
Oui, alors la deuxième année, ils sont mélangés. En fait, la première année, ils sont entre 20 et 24. Voilà. Et la deuxième année, ils peuvent être 18, parce qu'il y en a un ou deux ou trois qui sont partis ou qui se réorientent. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces 17-18? Il y a plusieurs formules. Mais aujourd'hui, il n'y a plus qu'une formule. Il y avait deux formules. Soit ils étaient isolés sur un groupe de 18 en semestre 3, ce qui est un semestre globalement difficile, et en semestre 4, dans le PPN des programmes, quelles que soient les spécialités, en fait, il y a des orientations. Insertion professionnelle ou licence pro, ou poursuite d'études. Donc il y a des modules qui doivent s'adapter. Il y a les parcours ou alors des adaptations locales. Par exemple, nous, à Grenoble, on aime bien en génie civil faire développer tout ce qui est travaux en montagne, sites dangereux. Donc il y a des boîtes, des entreprises hein, qui embauchent des jeunes pour travailler dans des sites difficiles, hein, travaux de restauration de montagne. Dans les stations, il y a, je rappelle, 300 stations dans les Alpes françaises. Donc, il y a une niche professionnelle. Donc là, on développe cette niche. Ensuite, donc là, aujourd'hui, dans les quatre filières, tout passage en deuxième année, ils sont tous dilués. Ce n'est pas eux qui choisissent, donc ils sont dilués. Après, il y a des améliorations, certains sur des projets veulent garder les ENEPS, les projets tutorés veulent garder les ENEPS entre eux. Moi, je ne suis pas favorable. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, en fait, il y a des jeunes qui profitent de l'opportunité d'être avec, alors, 130 en première année, 20-24 en première année. Deuxième année, 110 et 18. Donc, les 18 vont avec les 110. OK? Donc, ça fait 128. Donc, les 18, ils sont clairsemés dans les 5 groupes, parce qu'il y a à peu près 5 groupes en deuxième année. Il y a des jeunes qui découvrent d'autres jeunes. Voire qui tombe amoureux, peut-être. Mais l'amour, c'est un grand moteur. Alors, qui, effectivement, profite l'opportunité, pas l'opportuniste, l'opportunité de se mettre avec un jeune homme ou une jeune fille qui est première, deuxième ou qui est en tête de promo. Donc, qui connaît bien les sciences. Parce qu'elle a eu un bac S ou il a eu un bac S. Mais la techno, elle n'est pas terrible. Donc ça forme des binômes, mais j'en vois. C'est redoutable. C'est redoutable. Donc là, ils ont tout compris. Et moi, j'ai vu des jeunes, ils ont été totalement, entre guillemets, métamorphosés. On tire vers l'eau. C'est ce qu'on souhaite tous. Tous comme on est là. Donc ça, alors, c'est écrit dans les livres, etc. Bon, ce n'est pas facile, hein. Tous aussi, là, par exemple, il y a des projets de fin d'études en génie civil. Eh bien, il y en a qui se sont éclatés avec d'autres. Donc, ils se sont mis ces quatre. Il y en a deux des formations classiques et deux bac pro. Par contre, il y en a d'autres qui sont restés entre eux. Bon. Il y en a qui sont un peu plus étriqués et un an et demi, ça ne suffit pas. Parce qu'on a tous des casseroles et il y en a qui ne brillent pas forcément. D'accord? Donc, tout ça prend du temps. Mais l'idée de la mixité au niveau social, et au niveau compétences, parce que la compétence technique, elle est réelle. Vraiment, j'insiste là-dessus. Vraiment, il faut dire ça aux collègues dans les lycées. La compétence professionnelle, ce n'est pas de la démagogie pour vous, elle est réelle. Les jeunes, ils maîtrisent la compétence technique. Par contre, en fait, le handicap, ils sont un peu plus lents. Alors, ou ils n'utilisent pas bien les outils mathématiques. Donc, on va développer des outils en ligne sur le site internet de l'ENEPS. On va mettre des modules en ligne de maths. C'est-à-dire, qu'est-ce que, par exemple, c'est une discipline, hein, je prends souvent la métaphore avec la discipline sportive. Bon, ben, moi j'ai un bon copain là, il veut que j'aille faire le marathon de New York. Il est juste rigolo, lui. Hein. D'accord. Parce que moi, le marathon de New York, c'est juste pas faire. Donc, on va s'entraîner, mais je suis peut-être prêt à faire un demi-marathon. Donc, en fait, quelle est l'exigence pour un demi-marathon? Quelle est l'exigence de l'outil mathématique pour entrer à l'ENEF? Ben, on va le mettre en ligne. Parce que les jeunes posent la question. Quand on va dans les lycées, qu'est-ce qu'on peut faire cet été pour réviser? Ils sont conscients qu'ils ont un défi à relever. Ben, c'est pas facile pour eux. Donc, c'est vrai que la mixité en deuxième année, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Et quid de l'évaluation en deuxième année et des difficultés ou non rencontrées par les lycéens pro qui sont en deuxième année?
Alors, la difficulté, c'est les amphis. Parce que là, du jour au lendemain, en première année, ils n'ont jamais eu d'amphi et ils se retrouvent dans un amphi avec 110, 120. Donc là, pour certains, ils n'ont pas développé réellement les outils. Donc là, il faut qu'on travaille là-dessus. Ensuite, parce qu'en fait, ils ne savent pas comment faire. Alors, je ne dis pas que les autres savent faire, mais nous, on parle de bac pro, on est un peu obsessionnel. Hein.
Ah oui,
il
n'y
a que qui nous intéresse, hein, d'accord. Donc ça, c'est une difficulté. Sur les TD classiques, ils se retrouvent à 24, donc ils étaient à 24, dans la... mais ils ne sont jamais à 12. Par contre, l'enseignant propose une alternative. Alors là, je disais qu'il n'y avait pas de soutien, c'est le soutien. Par exemple, il y a un module qui est fini. Et puis, alors, ils ont tous le même DS. Hein. Là, il n'y a plus de DS différencié. Hein. Devoir surveiller, la note de scolarité, tout ça, on oublie.
Ah oui, d'accord.
Terminé. Hein. Donc, par contre, ils ont normalement acquis un savoir-faire sur la révision par rapport à l'étude, etc. Alors, certains font de l'étude, certaines filières font de l'étude encore en deuxième année, sur des thématiques précises. D'autres développent le soutien. C'est-à-dire que le prof, il dit, bon, pour les honnêtesiens, alors évidemment, on stigmatise parfois, mais ce n'est pas un mot que j'aime bien, mais c'est réservé aux honnêtesiens. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, si vous n'avez pas bien compris, le DS, c'est dans 15 jours, donc si vous voulez, on fait 2 heures de soutien. OK ? Vous m'envoyez un mail et vous me dites si vous êtes d'accord. Donc ça, c'est à la carte. Il n'y a pas de caractère obligatoire, pour l'instant. Ça marche plus ou moins bien, mais les jeunes, moi j'ai fait du soutien avec 400 jeunes. C'est-à-dire que le module a fait 30 heures, ou il a fait 28 heures, mais j'ai fait 2 heures de plus pour qu'il soit un peu plus, soit prêt, j'ai refait un DS. Mais en général, quand on fait du soutien, c'est vous venez avec vos questions. C'est-à-dire, c'est toujours être acteur. Vous n'êtes pas, alors là, il y a le programme, là, tac, tu prends le programme, toc, prends le programme. Non. Si vous venez me voir, vous venez avec des questions. Alors, certains viennent sans questions, mais l'idée, c'est que dans le cadre de la deuxième année, on essaye de leur dire, si vous avez besoin de soutien, pourquoi? C'est parce que j'ai des jolis yeux. Ouais, c'est possible, ça me fait plaisir, mais ce n'est pas suffisant. Non, c'est parce que, effectivement, vous avez des questions à poser sur... vous ne maîtrisez pas, par exemple, tel domaine ou telle méthode. Donc, par contre, vous voulez être... Voilà. Donc ça, ça se développe un peu dans le cadre de la deuxième année. Mais tous les devoirs, ils n'ont plus de devoirs différenciés.
Je vous remercie vraiment de votre propos parce que moi, il m'éclaire à plein de niveaux. Les remarques que je me fais... c'est que c'est d'abord une problématique qui a été vraiment prise en compte dans sa globalité, j'ai envie de dire finances comprises, et c'est pas rien. La deuxième, dans ce que j'ai entendu et ce que j'en ai compris, c'est qu'on est en fait sur un parcours pour les jeunes qui est constitué d'étapes qui questionnent la motivation en même temps que se vit la maturité. Donc je crois qu'on identifie peut-être pas non plus que parfois, il suffit de laisser un peu de temps au temps pour que des choses qui n'étaient pas acceptées, comprises, soient maturées. Ensuite, alors on est dans l'excellence, mais reste à voir ce qu'on fait porter à ce terme excellence. Moi, il me semble qu'au lieu de dire une excellence pour les meilleurs, j'ai plutôt entendu un accompagnement personnalisé qui crée l'excellence.
Oui, d'ailleurs, je répète, le terme d'excellence est... C'est mon homologue Jacques Gasqui avec qui j'ai monté cette école, qui est plus là puisqu'il était de l'ancienne présidence et parti à la retraite même, qui était professeur de mathématiques. Puisqu'à l'origine, et c'est lui vraiment, il m'a dit Pierre, il faut avancer avec ça. Il était prof de maths donc à l'Institut Fourier, donc
il connaissait bien les problématiques des mathématiques et de l'apprentissage des maths à travers le cursus universitaire. Donc c'est vrai, lui, il était sur le terme d'excellence. Mais après, bon, métier, accompagnement, réussite, c'est quelque chose qui passe mieux au niveau des jeunes.
Oui, encore que l'excellence, enfin, c'est pas un terme personnellement qui me gêne, c'est juste d'avoir un point de départ qui dirait qu'on s'adresse aux meilleurs, alors que je crois qu'au contraire, on les rend excellents. C'est tout ce qui est fait qui les rend excellents. Mais bon. Alors j'entends aussi, il faut bien que je modère un peu mon propos, une évolution dans la stratégie de formation, davantage que dans l'approche pédagogique. Parce que j'ai rien entendu de transcendant, hein, sans vouloir offenser, dans l'approche pédagogique. Et à mon avis, par contre, il y a des choses à faire. Mais bon.
Oui, mais là-dessus, on a une marge de progrès. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, parce que l'école, donc, elle a un label. Ce label, ça veut dire qu'on a établi un consortium via l'Agence nationale de la recherche. Le consortium, c'est quoi? C'est qu'on a des réunions de bureaux tous les mois avec les directeurs des études et l'équipe ENEPS, c'est-à-dire la secrétaire, la chargée de com, la chargée de promotion de l'école et un mécénat de compétences Schneider, un super professionnel qui nous aide à la promotion de l'école. En fait, moi, je suis 5. Je fais plus de recherche, je fais de l'enseignement, mais on est 5, en fait. Plus 4 directeurs des études. Donc, c'est une équipe de 9. Tous les mois, on se voit. Ensuite, il y a un comité de pilotage qui est composé d'un certain nombre de gens qui votent et un conseil de perfectionnement. Et dans le dernier comité de pilotage, l'école, en fait, via le label, elle a 3 ans, 2012-2015, puisqu'elle a été labellisée en avril 2012. On nous attend un peu au tournant sur cette affaire. Parce qu'effectivement, il faut qu'on s'améliore à travers l'innovation pédagogique. Parce qu'effectivement, il y a des choses à faire. Alors là, il y a des réticences, mais on va y arriver.
On va y arriver.
Parce que l'idée, c'est, quand je vais dans un autre modèle, c'est développer le modèle. Et le modèle, il n'est pas très simple quand même. Donc, s'il y a des outils qui peuvent séduire à travers ce modèle, et notamment des outils pédagogiques, c'est une valeur ajoutée. Voilà. Donc ça, l'Agence nationale de la recherche, effectivement, nous invite fortement à travailler. Et on va sans doute se faire aider à travers un développeur, parce que l'enseignant n'est pas forcément contre, mais son temps est compté. Les agrégés font souvent un service et demi à l'université, ils ont 600 heures par an.
Il faut les accompagner aussi.
Voilà, et les enseignants-chercheurs, ils ont 200 heures, ils font de la recherche maintenant, aujourd'hui, une telle pression sur les laboratoires qu'ils font tous de la recherche, ça fait partie de l'enjeu. Donc, après les outils pédagogiques nouveaux, ils les maîtrisent pas tout le temps. Donc maintenant, il y a quand même, on peut embaucher compte tenu qu'on a des moyens. 3,5 millions sur 8 ans, c'est tout à fait satisfaisant. 2 millions sur la masse salariale. Donc on peut développer ces outils. Et une fois que ces outils existeront, on pourra donc les exporter. Mais je suis d'accord avec vous.
Ben voilà, on partage le point de modération. Alors après, sur la note sanction qui devient une note motivation, il me semble être évalué tout le temps ces jeunes. Mais bon, j'ai surtout l'impression qu'il y a toujours un adulte derrière pour amener une remédiation qui doit permettre d'expliquer,
j'ai
de donner
garde
du
rapprochée.
Sens. Ouais, ça c'est clairement ce que j'en ai compris.
Ah oui,
et puis je fais quand même moi du coup des parallèles avec ce qu'on a nous comme dispositif, l'étude. Moi, je crois que c'est quand même un peu une ambition de l'accompagnement personnalisé là qu'on installe chez nous. Les effectifs réduits, les groupes de 20 à 24, on a dans les dotations horaires des heures à effectifs réduits. Elles sont mal utilisées parce qu'elles servent au dédoublement, mais l'idée, elle n'était pas là. L'enseignant-tuteur, c'est le tutorat. Et puis les modules projet professionnel, personnel, ça fait quand même partie du projet, de la construction du projet d'orientation du jeune dont on est en responsabilité. Oui. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que on voit bien que vous êtes dans les années en études supérieures, que nous, forcément, on a un volume d'élèves beaucoup plus grand, des effectifs, et c'est ce qui rend pour les enseignants difficile tout ça, parce que l'idée, elle est quand même là. Donc, merci.
Mais je vous cache pas que le module PPP, dans la maquette, c'est le module PPP, en fait, c'est 2008, projet professionnel personnel. Sur 2013, on a revu la copie, ils ont développé un module MTU, méthodologie du travail universitaire. Dans certaines filières, mettre en place ce module-là, il y a des enseignants qui ne savent pas faire. Et c'est vrai qu'apprendre certaines méthodologies, etc., ça peut être un plus dans l'apprentissage de la connaissance. Mais le PPP, je dirais que sur la moitié des filières de l'ENEPS, parce qu'en fait, il y a aussi des collègues qui veulent pas donner leur copie. Ils font ça depuis des années, donc fous-moi la paix, etc. Donc il y a un rapport de force qui se crée. Et c'est ça aussi une petite difficulté où il y a un petit peu, hein, moi je garde mon truc et donc tu bon. Mais on a la possibilité de faire évoluer les choses, notamment à travers ce PPP, faire prendre conscience à la fois aux enseignants que c'est utile, à la fois aux étudiants qu'ils sont là pourquoi.
Sur la pédagogie, j'aurais bien voulu avoir un complément d'informations, parce que j'ai pas tout à fait le même avis que Dominique. J'aimerais bien aller observer ce qui se passe. Est-ce que vous pourriez nous décrire comment les enseignants travaillent ensemble? Comment dans les collectifs de travail? Y a-t-il des moments où ils travaillent ensemble? Première question. Et comment travaillent-ils? Et à partir de quoi? Et sur quel support?
En fait, ça dépend des équipes pédagogiques. Et l'histoire montre qu'à l'université, il y a des équipes pédagogiques, ils sont pas là, donc, mais ils ont des oreilles, c'est pas grave. Génie électrique, c'est des gens qui travaillent plutôt ensemble. Ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un module X qui est dispensé, obligatoirement sur les 130 plus 20, ça fait 150 jeunes, il y a obligatoirement plusieurs enseignants. Il n'y a pas qu'un enseignant qui se gave les 30 heures sur les 6 groupes. Donc, il y a plusieurs enseignants. Alors, c'est minimum 1 s'il n'y a qu'un module et puis qui est spécifique en S4, etc. Mais en général, c'est jamais 1. Donc, c'est 2, 3, 4. Donc là, après, l'histoire montre que dans certains départements, certains collègues ont l'habitude de travailler ensemble. C'est-à-dire qu'ils regardent le module. Parce que le module a été écrit, il est rédigé en termes de compétences, et à partir de là, ils déclinent ce qu'ils vont faire au niveau des exercices et du cours, jusqu'où ils vont aller. Peut-être, des fois d'ailleurs, en mathématiques, ils ne font pas forcément tout le programme. Ils disent, bon, ça, c'est pas très grave, ils ne le font pas, mais globalement, ils le font. Hein. Et après, ils disent, on va dédoubler le cours, parce que si on est... Mais le problème du dédoublement, il faut trouver un collègue qui est libre en même temps, à la même heure. Parce que ça, il y a des problèmes pratiques. Et ça, c'est pas forcément très simple à résoudre. Quand vous dédoublez un groupe, qu'est-ce que fait l'autre groupe? Alors, il peut être dédoublé sur une autre thématique. Et à l'inverse. Donc là, il y a une organisation qui est pas toujours très facile, parce qu'en fait, on dépend à la fois d'un gros groupe à côté d'un 130, qui dépend de la même équipe pédagogique, qui dépend des mêmes locaux. On n'est pas l'école Merlin-Gérin, d'accord? On est dans un système. Donc, et en fait, le collègue... on travaille aussi avec des collègues extérieurs, notamment des collègues de lycée. Donc ça marche plutôt bien, parce que les collègues de lycée ont l'habitude... D'abord, ils sont honorés, avec tout le respect que j'ai pour eux, bien entendu, de venir travailler avec nous. Ils font des choses différentes, des thématiques différentes, et ils ont envie de travailler ensemble. Peut-être presque plus que les universitaires, ils n'ont pas forcément le temps. Après, il y a des universitaires qui font du copier-coller, hein, donc ils font rien, ils innovent rien du tout. Donc, sur toujours les sciences, les directeurs des études font en sorte qu'il y ait un esprit d'équipe et qu'il y ait un travail à 2-3 sur le programme du module ou des modules avec des exercices adaptés. Ça, il y a un progrès qui a été fait là-dessus. Mais c'est un esprit d'équipe parce que les esprits d'équipe, ça ne se crée pas comme ça. Hein. C'est pas... Et puis où chacun développe son polycope, voilà. Mais ça ne marche pas.
Oui, c'est la question que j'allais poser. Est-ce qu'il y a des outils qui sont partagés, qui sont construits ensemble?
Bah, les outils, principalement, ça peut être des développements de TP. C'est-à-dire que on a considéré que dans certaines matières, c'était pas facile à gérer. Donc, il y a eu des TP d'acheter propres pour les bacs pro. Donc, il y a plus de TP. Donc, en fait, là, il y a un partage de TP. Après, il peut y avoir, alors, en tant qu'outil, outils internet, tout ça, il peut y avoir des bases comme Camillo, puisque c'est une base de données. Donc là-dessus, sur Camillo, les jeunes, ils ont des liens. Donc ils vont chercher les exercices qu'ont déposé les collègues et ils travaillent sur ces exercices. Ou il y a eu un test, le test, il est corrigé. Au lieu de donner une feuille à tout le monde, ils sont invités à aller voir sur Camillo le test. Donc il y a des outils un petit peu informatiques, des outils pratiques de TP et... voilà à peu près ce qui se fait, mais rien. Alors sur certains modules, il y a de l'APP, notamment le module de thermique, mais tout ça doit être conforté sur les outils proprement dit. C'est pour ça que j'étais peut-être pas très à l'aise sur ces outils, parce que alors l'excuse, la justification, bien que je hais la justification, j'ai pas à me justifier. L'histoire d'ailleurs montre le pire comme le meilleur. En matière de justification. Mais c'est pour dire que je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce que l'école soit connue, qu'il y ait des passerelles avec des lycées, qu'on a développées à travers la cordée de la réussite, à travers des échanges de lycées dans certaines régions, et qui valorisent le parcours de l'ENEPS. Quand ils font leur campagne en collège, ils parlent de l'école. Et il parle de poursuite d'études à travers des STS, mais aussi à travers l'ENEPS. Donc ça, je nomme par exemple le lycée Paul Hérault à Gap. Le proviseur, il a tout compris, le maître des travaux a tout compris. Il fait valoir cette passerelle. Oui, j'avais posé une question. Les ENEPSiens adhèrent-ils bien à cette évaluation? C'est-à-dire...
Oui.
Alors, en général, ils m'ont dit, les directeurs d'études m'ont dit oui, car ils apprécient mieux comprendre ce qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Donc en fait, l'idée, et ils s'investissent notamment bien dans des travaux complémentaires faits à l'étude. Donc en fait, l'idée d'une évaluation plus importante en première année sur des modules, je répète, scientifiques, hein, parce que ce n'est pas la peine de le faire sur des domaines techniques, eh bien là, il y a une reconnaissance. Il y a aussi le fait que la notion de bienveillance, donc ça on est un peu du côté psy, la notion de bienveillance est vraiment une valeur ajoutée sur l'apprentissage de la connaissance. Alors, on ne recherche pas forcément la bienveillance pour la reconnaissance, mais c'est vrai que généralement, même pas généralement, tous les directeurs des études qui s'occupent de ce parcours, en fait, ils sont amoureux de ce parcours. Parce que sinon, voilà, s'ils ont envie que le jeune progresse, ils ont une écoute, voilà. Donc ça, c'est un directeur des études, il doit avoir cette capacité d'écoute, et puis de dire, bon, bah, écoute, hein, tu commences à me... Ça va ? Bon, aussi de le remettre là où il faut. C'est là où vous avez parlé éducation, hein, et formation. Bien qu'il soit... ça, c'est pas facile, ça se fait pas. Il faut du temps. Hein. Il faut du temps. Hein, la notion de respect, la notion de... Mais globalement, ça se passe bien. Mais parfois, il y a des dérives, quoi.
Comme j'ai le micro, je vais pas monopoliser, mais j'aurais une question et une suggestion. La question, c'est concerne la préparation à l'évaluation d'un point de vue méthodologique ou d'un point de vue appréhension psychologique. C'est apparu comme un allant de soi, mais est-ce qu'il n'y a pas un pan du travail des enseignants qui est centré là-dessus, sur ce sujet, la préparation à l'évaluation, ben, peut-être d'un point de vue peut-être plus méthodologique?
Ben, en fait, compte tenu que globalement les collègues qui enseignent dans le module, bon, ils maîtrisent le module. Donc, il y en a qui ne font pas la même chose. sur le plan de la méthodologie et de l'approche de l'apprentissage de la connaissance que dans leur parcours classique. Donc, ils ont adapté leur pédagogie en parfois faisant un TP alors que habituellement ils le font en fin de module ou en milieu de module, en faisant des exercices qui sont peut-être un petit peu différents. Et puis, il faudrait que je vous donne des exemples concrets, mais je n'en ai pas demandé, mais je pourrais en demander. Ou alors, sur l'interactivité sur des questions par rapport à des problèmes qu'ils posent. Ils sollicitent globalement plus les élèves, puisqu'ils ont la possibilité d'être en comité restreint. Alors, la méthodologie, elle se base peut-être... je n'ai pas de feuille de route, proprement dit. J'ai essayé, si vous voulez, il faut voir que il faudrait que je revienne, en fait, dans un an ou deux. Non, mais parce que ça, c'est vraiment perfectible. C'est perfectible. Et ça... alors... Je lis, hein... Il y a la notion de mise sous pression à travers les plus de tests. Mais certains considèrent que c'est un facteur de réussite parce que ça les oblige à travailler régulièrement. Donc ça, et ça permet aussi de rattraper une mauvaise évaluation. Est-ce que la difficulté dans des modules, dans ce terme franchouillard, le saucissonnage de notre formation à travers le semestre et les modules, ça ne favorise pas le temps imparti pour la compréhension, mais c'est vrai pour les bacs S comme pour les autres. Hein. Alors pour les bacs pro, pas forcément plus, mais ça c'est une vraie difficulté. Donc, parce que habituellement le DUT classique, il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, même 2008, c'est pas si vieux que ça, il y a 7 ans, de la résistance des matériaux, on faisait tout le long de l'année. Donc, le temps d'assimiler, etc. Donc, c'était beaucoup plus progressif. Donc, ça, c'est l'évaluation et le nombre, c'est important. La multiplication permet de dédramatiser, le terme a été utilisé, de dédramatiser le contrôle. Mais c'est vrai qu'au départ, dans les IUT, c'était ça. Après, il y a eu parfois des dérives. Alors, ensuite, dans certains lycées, il y a des séances de maths qui sont dispensées dans l'agglomération grenobloise. C'est un petit peu pour démystifier la poursuite d'études. Alors, c'est fait pour des BTS et des DUT. Hein, c'est pas fait uniquement pour le NEPS. Donc là, aujourd'hui, sur 4 lycées à Grenoble, chaque année, il y a une trentaine de jeunes qui sont sélectionnés sur ces 4 lycées et qui suivent 4 modules, mais 4 modules, c'est 4 fois 2 heures, hein, et ça se finit à l'université aussi. Voilà, c'est un petit peu pour dire, on va faire des maths, on va faire des sciences, mais voilà comment ça se passe, et c'est un peu pour éviter de les angoisser, quoi. C'est un peu pour les rassurer. Mais la notion de conceptualisation et de sur le plan pédagogique est un travail qui doit être mené un peu plus en profondeur.
Voilà, c'est la suggestion que j'allais vous faire.
Oui.
Ça serait de formaliser tout ce que vous appelez l'aspect pédagogique des, oui, enseignements, effectivement, dans une perspective d'essaimer la formule de l'ENEPS, effectivement. Et dans la formalisation, on voit apparaître des choses qui sont effectivement, lorsqu'on fait une petite description, ça paraît pas aussi évident parce que c'est le quotidien de l'activité de l'enseignant. Et effectivement, quand on cherche pas à observer de près et à comprendre, eh ben ça apparaît comme une évidence, ça coule de source. Alors que effectivement, si on cherche à formaliser, ça permet de faire émerger et de repérer les choses qui provoquent des déclics chez les élèves, quoi, et qui sont certainement à reprendre et à développer.
Tout à fait.
Voilà. Donc, pour la prochaine fois...
Voilà. Ça fait partie de notre mission, là, dans les mois à venir, qui est réclamée, justement, avec l'ANR. Donc, mon intervention conforte cette idée. et ce travail.
Je voulais vous demander, merci pour votre intervention d'abord. Donc on voit que votre projet est fondé sur des filières, principalement les filières du secteur secondaire, comme vous l'avez dit, le secteur industriel. Est-ce que vous êtes posé la question éventuellement demain d'élargir ce projet sur des filières tertiaires? Et est-ce que vous pensez que c'est transposable, ce dispositif? Je parlais de dispositif en mettant des guillemets. Est-ce que c'est transposable à des bacheliers issus du secteur tertiaire pour un IUT, par exemple, gestion des entreprises et administration? On sait que les problématiques de poursuite d'études des bacheliers pro sont quand même différentes du secteur industriel au secteur tertiaire. Voilà, c'est la question que je vous pose.
En fait, dans le paysage grenoblois, il y a donc l'université Joseph Fourier, qui est une université de sciences, techniques et médecine. Et puis, à côté, il y a l'université Pierre Mendès France, où est rattaché l'IUT 2, puisque à l'IUT 1, c'est Joseph Fourier, il y a 8 spécialités. Et à l'IUT 2, il y a 9 spécialités. Donc, dans le cadre de l'essaimage, les donneurs de leçons devraient balayer devant leur porte. On sait, les donneurs de leçons, ben, je peux être donneur de leçons en disant à d'autres universités, mais les bacs pro, ça vous intéresse pas? Donc, j'ai interpellé l'IUT2, l'université Pierre Mendès France. Donc déjà, eux, alors je me suis fait retoquer, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Donc, eux déjà... ils se font tirer l'oreille actuellement par le recteur, qui était le bras droit de Madame la ministre. Ils se font tirer l'oreille parce que des STI, déjà, ils n'en recrutent pas assez. Ils sont sur des filières, alors vous avez pris GEA, effectivement, ils sont sur des filières où, là, il y a une vraie sélection. Enfin, le GEA Grenoble, je le connais particulièrement, et encore plus particulièrement, parce que ma fille l'a fait, et je peux vous dire que ça y va. Hein. Là, il y a une vraie... C'est une usine. Et d'ailleurs, il y a certains collègues du GE à Grenoble qui commencent à en avoir assez. Et qui disent, oui, ben on pourrait... Il y a une campagne, quand j'ai exposé au conseil d'administration, au conseil d'IUT, pas l'administration, au conseil de l'IUT, de le projet UNEPS, il y a certains collègues qui m'ont dit, bah, t'es venu, mais ça ne sert pas à grand-chose, qui veulent développer les licences professionnelles, notamment dans le parcours. Donc aujourd'hui, je n'ai pas étudié la question, mais parce que en local, j'ai eu un refus, malgré effectivement l'idée que demain, l'université grenobloise va s'appeler Université Grenoble-Alpes, puisque Pierre Mendès France, Stendhal et Joseph Fourier vont se rallier. Donc j'ai dit, bah, c'était une belle opportunité avant l'heure de faire un essaimage. C'est juste pas possible. Donc là, je me bats pas. On m'a dit oui, mais c'est pas adapté. Enfin, tout. Notamment, je me suis pensé sur l'informatique. Et dernièrement, j'ai vu la collègue d'informatique de l'UPMF, parce que au sein de l'université Joseph Fourier, il y a un DLST, donc Direction des sciences et techniques, hein, il y a 1000 jeunes en licence L1. Et donc un secteur informatique. Et ils ont des licences, ils ont des bacs pro. Ils savent pas comment faire pour les faire réussir. Donc ils veulent monter quelque chose pour les faire réussir. Donc moi j'ai parlé de l'ENEPS et j'ai eu l'occasion de rencontrer la collègue qui fait le DUT informatique. Mais enfin je prête dans le vide là. C'est bon, j'ai pas étudié la question, mais pour l'instant compte tenu qu'ils ont pléthore de jeunes, alors je pense qu'il y a des sections dans le tertiaire. Bon, ils n'ont pas forcément pléthore de jeunes. Mais je n'ai pas analysé la question. Je me suis plutôt porté, jusqu'à présent, sur le secondaire. Oui, et puis c'est attaché à une valeur ajoutée sur le technicien. Parce qu'au départ, moi, j'ai rajouté le terme industrie. J'ai marqué égalité des chances, accès au plus grand nombre et industrie. Parce que dans des bureaux d'études, ils ont besoin de techniciens. Et aujourd'hui, la rançon du succès de l'IUT 66, moi je suis un produit IUT La Rochelle 73-75, je connais bien le problématique. La rançon du succès font que certains IUT sont devenus ce qu'on appelle ringardement, hein, des propédeutiques. Bon, mesure physique, des techniciens en métrologie, des techniciens en métrologie. Je pense qu'il y a des possibilités, mais Grenoble, mesure physique, c'est 90-95% pour ceux d'études. Alors, quand je leur dis, ah oui, mais dernièrement, on a créé une licence pro. Donc, c'est ce qu'on appelle, là, c'est, voilà, ils se sont dit, waouh, allez. Hein, donc, ouais, on fait aussi de la techno, on vient de, mais ça date d'il y a un an. Donc, c'est vrai que ça, c'est l'histoire des IUT qui font que, bon, il n'y a pas de quota pour l'instant. Quand vous avez des jeunes qui digèrent tout, bah, c'est sympa, hein, c'est cool. Hein. Les bac pro, même dans l'excellence, ah ouais. Mais il y en a qui reviennent parce que sur la pédagogie, il y a des professeurs d'université qui sont à l'IUT, ils sont professeurs d'université. Certains ont dit, ben non, j'enseigne pas. Et pour finir, ils se sont mis, et ils n'ont qu'une envie, c'est de garder les bacs pro. Récemment, une prof de langue, qui elle, fallait pas entendre parler des bacs pro, notamment dans le projet Voltaire, puisqu'on a développé le projet de Voltaire pour l'orthographe, au niveau des bacs pro. Ouais, le projet Voltaire, tout ci, cela, tout ça. Dernièrement, le directeur des études du GMP me dit, Pierre, j'ai une bonne nouvelle. La collègue, l'année prochaine, elle prend des bacs pro. Elle s'est trompée. Voilà. Donc, c'est vrai que là aussi, la diversification du public sur certains collègues, eh bien, parce qu'en fait, les jeunes, ils posent des questions. Donc, si le collègue a un peu d'humilité, il se dit, mais attends, oui, effectivement, il a posé la question, mais moi, je vais essayer de lui répondre pour qu'il comprenne. Ouais, mais j'ai peut-être pas les outils, là, tout de suite, pour répondre correctement. Donc, je vais faire différemment. Donc, certains collègues ont revu leur pédagogie parce que ils étaient aussi valorisés par les questions. Parce que quand un collègue a des questions, c'est sympa pour l'ego, on peut répondre, tu vois. Si, imaginez qu'il y ait zéro question après mon intervention, je serais triste. Non, en rigolant, je suis taquin. Mais c'est vrai que là, il y a une vraie changement et les IUT, je pense, doivent changer, mais il faudra du temps.
Oui, j'avais une question pour revenir à la pédagogie. Bonjour, Régis Bichard, UNSTI sur l'Académie de Poitiers. Vous parliez des difficultés sur l'apprentissage des outils scientifiques et mathématiques, de l'entraînement aussi, hein, si j'ai bien compris, oui. Que j'ai fait la métaphore avec le sport. Oui. On rencontre cette même problématique avec les poursuites d'études en BTS. D'ailleurs, je pense que la description que vous avez donnée finalement du taux d'encadrement et de l'organisation des modules et des groupes rapproche sans doute un peu de l'encadrement qu'on pourrait trouver en BTS première année, hein, dans les modalités classiques. J'en reviens donc aux outils mathématiques. Il y a un peu deux écoles qui s'affrontent et qui peuvent d'ailleurs être contradictoires avec peut-être certaines préconisations sur l'apprentissage des mathématiques en bac pro. C'est soit d'intégrer les outils mathématiques et scientifiques aux apprentissages professionnels et technologiques et de faire des mathématiques vraiment appliquées, contextualisées, d'entrer par les situations professionnelles, si on veut aller jusque-là. Ou l'autre approche, c'est de faire des mathématiques bêtes et méchantes pour recréer des réflexes mathématiques sur certains outils. Alors, est-ce que vos enseignants ont travaillé sur l'une ou l'autre des deux méthodes? Et qu'est-ce que vous préconisez en termes de remédiation pour nos élèves de bac pro qui veulent poursuivre des études dans le supérieur et qui ont ces problèmes mathématiques?
En fait, dans le cadre des profs de maths, ben, dans une des filières, c'est une enseignante du lycée Roger Deschaux à Grenoble qui est enseignante dans un lycée et qui enseigne au bac pro et au BTS dans le lycée et qui enseigne en première année dans la filière génie civil. Dans les autres filières, ce sont celui qui enseigne les maths, c'est un PLP qui connaît bien les maths évidemment, et ensuite les autres, ils sont agrégés ou maîtres de conf. Alors en fait, il y en a qui parce que comme il y a un programme et on est censé donc suivre le module, les modules. Donc dans les modules, donc il y a des 1, 2, 3, et puis il y a des items. Donc, certains considèrent que, de toute façon, l'objectif, c'est d'arriver au bout de la première année. Donc, globalement, dans chaque filière, ils ont à peu près 4 fois 30 heures de maths, donc 120 heures de maths. C'est d'arriver à un certain nombre d'outils, de maîtrise d'outils basiques qu'ils n'avaient pas. Donc, au départ, Il revoit notamment des fondamentaux de la troisième, parce que souvent il s'est trouvé que les jeunes ont témoigné qu'ils avaient eu des difficultés dans l'apprentissage des maths en troisième, ce qui les a fait, enfin il n'y a pas que ce paramètre, ce qui les a fait entrer dans le bac pro ou par choix ou par défaut. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on veut développer des modules en ligne sur des maths de troisième. Hein. Donc ça c'est des choses basiques comme la factorisation, la rationalisation, la trigonométrie, la mise en facteur, etc. Donc ça ils maîtrisent pas bien. Donc certains profs de maths globalement ils considèrent quelques séances là-dessus. Mais comme il faut faire un programme, donc ils innovent pas réellement. Ils essayent de faire prendre conscience aux jeunes que ces outils-là, il faut absolument les maîtriser. Donc ils peuvent à la clé mettre des QCM et des tests dans ces premières séances. Voilà. Après, ils suivent à peu près le programme, mais alors certains ont des états d'âme que s'ils n'ont pas fait tout le programme, mais d'autres pas, parce que ils considèrent que de toute façon, le jeune, si effectivement, parce qu'évidemment, dans un groupe de 20, ben, il y en a qui comprennent plus vite que d'autres, hein. Donc ça, c'est aussi une réalité de groupe. Donc il n'y a pas, j'en ai pas parlé de ça, mais il peut y avoir des disparités importantes, même si le recrutement, alors je vais pas parler des modalités de sélection, parce que là on a une feuille de route un peu bien particulière sur les modalités de sélection pour favoriser donc une réussite. Donc là où en sciences ils ont des difficultés, sur le collègue, c'est que ils peuvent pas faire de l'enseignement différencié. Donc, je dirais que globalement, ils font à minimum le module et ils peuvent considérer que certains items de module, ils le font pas. Mais ils sont pas sur d'innovation pédagogique à travers des APET, à travers de l'apprentissage par problème. Pour l'instant, ils le font pas. Justement, on va essayer de travailler sur des modules en ligne pour développer peut-être d'autres approches mathématiques. Mais quand j'interpelle les collègues, parce qu'avant de venir ici, j'ai fait une interro auprès des collègues, mais j'ai du mal à avoir quelques informations.
Oui,
donc ça fait partie de mon travail.
Pardon, oui. Je voulais réagir par rapport aux mathématiques bêtes et méchantes. Enfin, c'est fini en lycée professionnel, enfin, en tout cas en maths sciences, puisqu'on se situe bien avec le nouveau référentiel sur des situations problèmes, situations professionnelles ou de la vie courante. Et comment le débat qui disait on va soit confier aux profs de spécialité les maths ou soit confier les maths aux profs d'enseignement général a été dépassé depuis un certain nombre d'années. Parce qu'on s'est rendu compte que on n'a pas la même façon d'enseigner quand on est prof d'enseignement général et quand on est prof d'enseignement professionnel. Surtout, ça a été vrai à l'époque où des collègues de gestion, par exemple, avaient une partie d'enseignement des maths spécifiques. Et du coup, donc il faudrait pas croire qu'on fasse des maths bêtes et méchantes, hein, surtout en lycée pro.
Oui. Alors je vais aller jusqu'au bout de ma provocation. Je pense que il y a des préconisations pédagogiques qui peuvent paraître contradictoires parce qu'effectivement, et moi le premier, y compris en tant qu'UNSTI, on dit toujours aux professeurs de contextualiser les outils scientifiques et mathématiques qu'on fait utiliser. Or, les enseignants de BTS qu'on rencontre après, et moi j'en rencontre régulièrement en BTS électrotech, puisque c'est une des filières dont je m'occupe, nous disent, oui, ça c'est bien joli, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'une fraction, ils ne maîtrisent pas la conversion d'unités, et les opérations de base, les opérations de trigonométrie, etc. Et effectivement, et moi, en tant qu'inspecteur dans le moule au départ, je dis mais oui, mais il faut intégrer ça dans des apprentissages par situation problème, contextualiser, etc. Et eux me disent non, nous on n'a pas du tout choisi ça. On leur fait faire des exos avec 50 questions pour faire des fractions, faire de la conversion d'unités, Et force est de constater que c'est de l'entraînement en fait, comme un sportif de haut niveau, très régulièrement, plusieurs fois par semaine, et que ça recrée, enfin en tout cas, moi, ils me l'ont démontré par A plus B, et j'ai tendance à les croire, que ça recrée des réflexes mathématiques que les élèves avaient sans doute perdus au cours de leur scolarité. Et ce que je voulais essayer de mettre en évidence, c'était pas je ne pense pas une seule seconde qu'on fait encore des mathématiques bêtes et méchantes en LP, mais c'est peut-être plutôt un regret, justement, d'avoir abandonné une forme de répétition, un certain nombre de réflexes. On pourrait le retrouver d'ailleurs dans d'autres disciplines d'enseignement général, hein, sur les connaissances. Et on est sur le socle, effectivement. Pour nos élèves, et on voit bien que les professeurs sont un peu, alors ont envie de les recréer, ou en tout cas les recréer dès lors qu'ils reprennent les élèves en supérieur. Et vous parliez des connaissances de troisième en mathématiques, c'est exactement ce dont je parle.
Ouais. Mais je vais juste.
C'est là où je trouve qu'il y a une contradiction peut-être qui peut se révéler, parce que on oppose les choses, et moi je les opposais, hein, moi-même je m'inclus bien dans ce dispositif-là. Et je pense qu'il faut peut-être pas tant les opposer que ça.
Alors, je vais juste apporter, excusez-moi monsieur, je vais juste apporter que, bon, moi je connais plus le génie civil et notamment le directeur des études du génie civil qui communique plus que les autres. Il a souhaité, et il en a eu un certain nombre, de problématiques mathématiques transversales. C'est-à-dire qu'il a sollicité les enseignants d'autres matières, hydraulique, électricité, résistance des matériaux, où il y avait des résolutions mathématiques. Et donc, en fait, le prof de maths fait aussi les deux. C'est-à-dire que, quelquefois, il introduit des problèmes transversaux sur l'outil mathématique. Donc, il y a un peu une complémentarité qui est propre au génie civil. Je pense que dans les autres matières, ils ont tendance à faire beaucoup d'exercices sur la mécanique réflexe. Parce qu'ils n'avaient pas, ou sur lesquels ils n'ont pas pris conscience qu'ils ne maîtrisaient pas certains outils, je lis, fraction, puissance, bref, hein, des notions simples de mathématiques et un bref rapport de cours, hein, juste aussi un peu de cours, par rapport à la notion abordée. Donc ça, c'est un petit peu développé en amont. Bien qu'il soit des jeunes qui ont des bonnes notes. Hein. Il y a des 18, nous on prend des 18 en maths. Hein.
Pour faire écho à ce que dit mon éminent collègue, effectivement, je crois qu'on pointe là... la question du socle qui n'est pas maîtrisé, on le sait bien, enfin, je vais enfoncer, excusez-moi, quelques portes ouvertes, mais on sait bien qu'on accueille au lycée professionnel des élèves qui, la plupart, pour un certain nombre ou un nombre certain, n'ont pas la maîtrise suffisante du socle. Donc, les textes avaient prévoyé que, effectivement, demandaient d'être dans la continuité, et ça me semble, moi, une bonne chose. Alors, je sais que les temps ne sont pas extensibles et les heures non plus, mais effectivement, il y a peut-être à ce que, et je m'inclus hein, dedans, hein, bien entendu, moi le premier, à ce qu'on se pose la question au niveau de la voie professionnelle et au niveau du parcours bac pro, de veiller effectivement à ce que ces jeunes-là consolident et rattrapent les manques par rapport à la validation du socle, pour qu'effectivement il y ait ces outils-là, que ce soit mathématiques ou langagiers. Nous en tertiaire, on va être sur des outils langagiers qui manquent, etc., qui font énormément défaut, on le sait. Voilà. Alors user de l'accompagnement personnalisé, user des dispositifs, etc. Mais je pense que cette question-là est à poser au regard du socle et de la liaison avec le collège.
Par rapport à l'utilisation des mathématiques et l'enseignement des mathématiques en baccalauréat professionnel, il est vrai que sur l'essentiel du programme, on est sur de la contextualisation et on va mettre d'abord le contexte et ensuite essayer de faire apparaître les outils qui permettent de résoudre le problème qui est posé. Il n'empêche que dans la rédaction du préambule du programme, il y a un paragraphe qui est extrêmement important et qui s'appelle « Développement des automatismes ». Et lorsqu'on est dans le développement des automatismes, vous n'avez plus de contexte. C'est-à-dire, rien n'empêche un professeur qui est en baccalauréat professionnel, que ce soit en seconde, en première ou en terminale, de faire des gammes. Ben, vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, de la résolution de l'équation du second degré. Cette problématique peut être abordée à un moment donné dans un contexte, mais une fois que le théorème a été vu, rien n'empêche le professeur de proposer à ce moment-là des gammes, c'est-à-dire il va proposer cinq équations du second degré à résoudre l'une derrière l'autre. Et même en dehors de n'importe quel cours, il lui reste 5 minutes ou en début de cours, il va dire « bon ben aujourd'hui, allez hop, on va faire ça ». Et une fois que ça c'est fait, on continue, on fait autre chose. C'est bien un automatisme qu'on va mettre en place. Lorsque vous êtes dans une situation de résolution de problèmes et que vous arrivez à l'équation, que vous ne savez pas quoi en faire, ça ne sert à rien. C'est que lorsque vous arrivez à l'équation, vous avez dit, j'ai trouvé la solution, c'est fini. C'est pas cette connaissance-là qui doit être l'obstacle. Donc il y a à travailler sur les automatismes. Le calcul algébrique, c'est encore un autre automatisme, on peut le faire.
Je vous réponds en tant que prof et en tant que formatrice. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce que du coup, en terminale, par exemple, bon, il y a 8 semaines de stage, il nous reste 20 semaines d'enseignement et on a 12 ou 13 leçons différentes à faire passer. Donc ça veut dire démarche d'investigation, ça veut dire la façon d'enseigner tout ça. Et on nous demande aussi de faire aussi un peu de préparation au concours pour les élèves qui voudraient passer des concours, comme par exemple moi en ASSP, auxiliaire de puériculture, tout ça. Donc ça, je le fais en AP. Si j'ai de l'AP l'année terminale, ce qui n'est pas dit, puisque en fait, c'est comme c'est globalisé sur toutes les matières d'enseignement général, des fois, on n'a pas nos quotas horaires. Donc voilà, on a aussi des contextes d'enseignement, des contextes de lycée qui sont à prendre en compte. Et tout ça, ça se travaille aussi avec les proviseurs, ça se travaille dans le projet d'établissement. Et c'est vrai que l'idéal, c'est vrai que si on avait 8 heures de cours avec nos élèves de lycée pro, ça serait bien par semaine, mais c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc effectivement, on essaye de développer le travail en autonomie, mais avec des élèves qui ont d'autres matières aussi, parce que nous, quel coefficient on représente par rapport au... Oui, mais je parle pas d'automatisme, mais tout ça, c'est du temps, c'est de la mise en place, et puis les élèves, ils ont d'autres matières à travailler. Enfin, je veux dire, il y a pas, et puis les maths, ça compte, enfin, maths science, ça compte très peu par rapport aux autres coefficients, quoi. Je veux dire, il faut pas se leurrer. Je veux dire, quelqu'un qui a coefficient 18 en matière professionnelle, bon, les maths, ça passe après, quoi. Ils sont calculateurs. Parce qu'on a vite dit, stratégie d'enseignement.
Voilà, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que les mathématiques, on en a quand même beaucoup besoin en enseignement professionnel. Le français, par exemple, on en a beaucoup besoin dans tout ce qui est rédaction, tout ce qui est courrier, tout ce qui est communication. Donc, je pense que, vu à travers l'enseignement professionnel, on peut quand même redonner aux élèves des règles, des automatismes. Et je ne suis pas sûre que ça soit du temps perdu. Enfin,
oui.
C'est à nous à leur montrer l'utilité, justement.